Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question de Schmox. Est-ce qu'il existe une usine à Aux, ces canulars numériques ? Thibaut, que l'on retrouvera en fin d'émission pour son complément d'enquête, le son, ce sera une comptine de Noël version NSA. Quant à notre invité du jour, Aurélien Bélanger, pour parler d'un de tout et de rien. Bonsoir Aurélien Bélanger.
Bonsoir.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur d'un livre qui était paru en septembre 2012, qui avait été très remarqué lors de cette rentrée, livre intitulé « La théorie de l'information », qui était paru chez Gallimard. Alors un livre qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque, car il retraçait 50 ans d'histoire des technologies de la communication française à travers la trajectoire d'un personnage, une sorte de double romanesque de Xavier Niel, le patron de Free. On y assistait entre autres évidemment à la naissance du Minitel, au passage de la France à l'Internet, sur fond d'une théorie de l'information inspirée en particulier, mais pas seulement évidemment, la cybernétique de Wiener. On y assistait aussi, parce que ce texte est aussi un roman d'anticipation au moins à la fin, à l'accès à une forme de singularité, ce moment de l'histoire de l'humanité dont les transhumanistes postulent qu'il sera une forme de fusion entre l'homme et la machine. À l'époque, je ne vous avais pas invité à venir en parler à Place de la Toile, en grande partie parce que vous l'aviez fait dans beaucoup de lieux et même sur cette antenne. Suffisamment de lieux en tout cas pour qu'on repousse cette invitation. Alors un an et demi plus tard, l'envie de vous entendre et de discuter avec vous ne m'a pas quitté. Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être parce que c'est l'hiver et que c'est le moment finalement des discussions comme ça un peu... Autour du show. Peut-être parce qu'on entend à nouveau parler beaucoup de Xavier Niel et que, en en faisant un personnage, vous restez d'une manière ou d'une autre associé à lui. C'est quelque chose d'étrange, Aurélien Bélanger. Peut-être aussi parce que les idées transhumanistes avancent. On les voit réapparaître régulièrement ici ou là. Et peut-être aussi parce que vous êtes écrivain, que j'aime la littérature et que je lui donne une sorte de primeur très injuste dans une manière de rendre compte du monde. Bref, autant de raisons donc bonnes ou mauvaises de vous recevoir. Bienvenue donc Aurélien Bélanger dans Place de la Toile. Alors première question, vous avez une question assez ouverte, c'est que toute la lecture de la théorie de l'information, j'ai été perturbé par une question. Je suis un esprit binaire, pas très informaticien mais binaire. J'ai besoin de savoir si les gens sont technophiles ou technophobes, aiment les technologies ou ne les aiment pas. C'est un peu ma manière de voir le monde. Bon, c'est un peu réducteur, j'en conviens, mais enfin voilà. Et donc vous, je n'ai jamais su votre point de vue, même dans les interviews que j'ai lues après, quand je vous ai entendu ça, je n'ai jamais réussi à comprendre si vous étiez technophile ou technophobe, Aurélien Bélanger.
Bah, je vais répondre sans répondre. Je suis vraiment l'enfant d'une génération, donc née en 1980, peut-être la dernière génération qui a vraiment cru au progrès en France de façon institutionnelle. L'exemple que je donne tout le temps, c'est les bouquins qui traînaient dans ma classe de primaire. C'était des livres sur Super Phoenix ou sur le Concorde ou des choses comme ça.
Pas très bien.
J'étais vraiment... mon éducation, c'était vraiment une sorte de dernier succès des 30 glorieuses industrialistes. Donc, j'ai été formé pour être technophile. Je le suis finalement toujours resté. Après, j'essaie d'être critique, etc. Mais mon projet romanesque, c'est plus d'aller rechercher les origines de tout ça et cette espèce de fusion tardive entre l'éducation qu'on apportait aux enfants et la croyance très très forte envers le progrès. Il faut voir que le mur de Berlin n'était pas tombé, donc il y avait encore des énormes usines très très, enfin, des deux côtés du mur. Tout ça n'était pas perdu. Et donc, au final, avec la fin du bouquin que j'ai voulu un peu ouverte, qui peut faire un peu une fable technophobe ou pas, je suis technophile, mais je suis conscient qu'on m'a fabriqué pour l'être.
Mais alors, ce qui est étrange, c'est qu'on peut croire au progrès, mais pas celui qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire qu'on peut avoir été élevé dans l'idéologie du progrès comme vous l'avez été, et en même temps voir quelque chose apparaître, et je pense notamment à l'Internet et à ce qui devient en ce moment, et se dire, oula, le progrès que j'aimerais voir ne va pas forcément dans la bonne direction. Donc c'est en ça que je me pose la question.
Mais après, ça pose la question quand même d'une légère rupture et qui peut être grave. Il faut veiller à pas que la rupture devienne trop profonde entre la politique et l'esthétique. Ouais. Les systèmes politiques fermés, esthétiquement, sont plus beaux. Les usines, esthétiquement, procurent des émotions plus fortes, j'ai l'impression. Une usine qui marche procure une émotion plus forte qu'une grève où tout s'arrête.
Donc, ah, c'est étonnant.
Il y a tout un imaginaire esthétique qui, sans dire non plus que je suis Leni Riefenstahl de la littérature, il y a tout un imaginaire esthétique qui s'accommode bien d'un certain ordre industriel des choses. Donc celui-ci, il a plutôt tendance à considérer plus de robots, super, des livraisons par drone, super, j'ouvre ma fenêtre, je verrai un drone, enfin, une sorte de technophilie un peu bêta comme ça, mais émerveillée par les choses.
Mais ça voudrait dire, par exemple, si on transpose ce que vous voulez dire, ce que vous dites, ça voudrait dire que Facebook, esthétiquement, c'est plus convaincant ou séduisant que le logiciel libre.
Alors, je ne connais pas très bien le logiciel libre, mais j'ai quand même l'impression que la beauté, en tout cas, peut-être pas Facebook, mais la beauté depuis peut-être 30 ans ou un quart de siècle, elle est du côté d'Apple.
Et Apple s'est fermé.
Voilà, et je n'ai pas vu vraiment beaucoup, beaucoup de choses transcendantes de beauté qui venaient du monde du libre.
Qu'est-ce que vous trouvez beau chez Apple? Quand vous dites la beauté chez Apple, c'est quoi? C'est pas uniquement, j'imagine, la forme de l'iPad ou de l'iPhone 5
Mais justement, en fait, ce qui est beau chez Apple, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très problématique. Ce qui est beau, c'est que ça soit justement fermé, que ça soit pas des outils pour geeks et que ça soit pas des outils... des outils pour bricoler, que tout soit déjà fini. On aime bien que quand on déballe, tout soit déjà parfait et que le monde... C'est quand même une expérience esthétique où le monde nous dit « Viens vers moi, regarde, je suis fini, je suis beau, je suis achevé. » Contre l'expérience un petit peu cyberpunk du truc qui marcherait pareil, mais où il y aurait trois composants dans une boîte. Et j'ai l'impression que c'est quand même moins satisfaisant sur le plan intellectuel qu'un truc complètement achevé. Ouais.
Donc vous n'êtes pas du tout geek, Aurélien Bélanger. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout, et encore moins hacker, et encore moins hacker au sens bidouilleur. Quoi. Ça ne vous intéresse pas du tout, la bidouille?
À titre personnel, si. À titre esthétique, beaucoup moins. Ouais.
Mais quelle différence vous faites entre titre personnel et titre esthétique?
Je bidouille de mon côté, mais j'achèterai pas un produit bidouillé. Ouais.
C'est vrai que vous bidouillez quoi?
Deux choses. Toutes sortes d'objets. Ouais.
Ah ouais, mais quoi, par exemple?
En ce moment, chez moi, je fais des suspensions avec des bambous, des choses un peu LED, mais j'ai un sens très développé pour fabriquer des trucs.
Et jamais la machine?
J'ai fabriqué une Ultimate Box de Shannon il y a un an, mais elle marchait pas, donc c'était un petit peu un échec.
C'est quoi une Ultimate?
C'est cette boîte qui, quand on actionne un interrupteur, fait sortir un bras qui éteint l'interrupteur. Mais il faut un moteur qui développe un couple assez puissant, et j'ai pas trouvé dans les boutiques de maquettes.
Pardon de vous poser cette question vulgaire, c'est quoi l'intérêt d'une machine comme ça?
Aucun, c'est une machine qui s'auto-suicide ou qui s'auto-arrête. Ouais. C'est une sorte de spéculation un peu folle sur, au final, est-ce que l'univers pourrait pas être quelque chose comme ça, quoi. Une machine destinée à apparaître et destinée à s'éteindre d'elle-même. Ouais.
Mais Shannon, c'était pareil, c'est le même, c'est le Claude Shannon de votre livre.
Ouais, bah c'est toute la série bidouilleur de Shannon. Après,
c'est travaux, qui Claude Shannon?
C'est un chercheur en théorie du radar, théorie de la communication, et qui a théorisé en 48 en quelques équations la théorie de l'information, et surtout qui a transformé l'information en valeur scientifique, en valeur physique distincte des autres. Et c'est un peu comme Newton qui invente la masse ou l'inertie, quoi. Shannon invente l'information et lui donne vraiment ses théorèmes. À côté de ça, il a une œuvre scientifique assez maigre, enfin pas monstrueuse. Par contre, c'est un grand bidouilleur. Il a fabriqué des machines qui sont capables de jongler, des machines capables de jouer aux échecs, des machines faisant des jeux stratégiques. Il est à l'origine de la première souris capable de s'orienter avec des petites moustaches métalliques dans un labyrinthe.
D'accord.
C'est à la fois un théoricien comme ça, des premiers systèmes d'intelligence artificielle et des choses beaucoup plus... qui penchent résolument du côté des arts forains. Ouais.
Et pourquoi il vous a intéressé, Shannon? Parce que dans la théorie de l'information, c'est vraiment une figure centrale, puisque c'est lui qui ouvre tous les interchapitres, disons, enfin tout au moins au début. Après, il y a d'autres personnages, mais au début, c'est vraiment lui. Voilà, c'est lui qui la base de la théorie de l'information du point de vue, disons, théorique, vraiment. Pourquoi il vous a intéressé? Comment vous êtes venu à vous intéresser à lui, alors que vous venez de la philosophie, vous êtes intéressé évidemment par la littérature, vous aviez écrit sur Welbeck, etc. Mais comment on en vient à s'intéresser à ça?
J'avais dû entendre dire en cours de philo des sciences il y a longtemps que la grande révolution du XXe siècle, c'était la seconde moitié du XXe siècle, c'était l'apparition du paradigme de l'information qui permettait de relier ensemble des champs jusque-là séparés. C'est une sorte de paradigme tout-terrain extrêmement robuste et qui présentait comme intérêt principal d'avoir quasiment un inventeur unique. Bon, on peut bien sûr remonter la généalogie, et qui reposait sur un texte de 60 pages, et que finalement tout ce qu'on sait faire aujourd'hui avec nos machines à communiquer repose, bon, de façon très très détournée, mais repose sur cet article minuscule.
Et comment vous en êtes venu à l'idée que ça devait être objet de votre intérêt et de votre, disons, un engagement créatif qui va vers la littérature, mais peut-être qu'il aurait pu aller ailleurs.
Il y a eu plein de choses. À la base, l'une des raisons, c'était à la fois, je me souviens des choses les plus bêtes, c'était un questionnement sur le mot Internet. Qu'est-ce que c'est qu'Internet ? Qu'est-ce que c'est que ce mot qui devient absolument ordinaire et qui est apparu quand même pendant 4 ou 5 ans comme extraordinaire. J'ai voulu retracer un petit peu l'origine de ça. Et ensuite, le fondement technique, je n'ai pas beaucoup développé, mais ça me semble toujours un peu fou qu'on ne sache pas comment fonctionnent au moins un minimum les outils qu'on utilise quotidiennement. Ouais.
Et maintenant, vous avez compris comment ça fonctionne ? Est-ce que vous pensez avoir compris comment ça fonctionne Internet ?
Avec les protocoles, avec toutes les histoires d'enveloppes autour des protocoles et tous ces machins, pas vraiment. C'est quand même un peu compliqué. J'ai compris schématiquement. Je ne saurais pas en livrer l'explication détaillée. Ouais.
Et quel rapport vous entretenez justement à Internet ? C'est un rapport, disons, un objet qui vous intéresse ? Quelque chose avec lequel vous entretenez un rapport plutôt magique ? Plutôt de quel ordre ?
C'est en voie d'auto-courantification dans la vie de tout le monde et dans ma vie y compris. Quoi. C'est une évidence inquestionnée. C'est même assez récent. Même les questions de citoyenneté numérique ou du web comme nouvel outil, etc., sont un peu en retrait progressivement depuis quelques années parce que la chose existe. Personne ne s'intéresse trop au modèle économique, pourtant assez problématique d'Edison quand il a lancé ses premières technologies. Personne ne s'intéresse vraiment à Henry Ford, mais plus aux voitures. Et Internet a suivi ce mouvement finalement. On est clairement sorti de l'âge des pionniers. Et les utopies sont vivaces, mais elles sont en train de mourir dans la mesure où il y a encore peut-être 3-4 ans, c'était possible que les utopies l'emportent. Là, on sait qu'il va devenir d'Internet ce qui arrivait avec l'eau courante ou l'électricité. Ça va devenir c'est devenu une énorme industrie. Il sera toujours possible de jouer dans ses marges, mais le cœur de la chose... En fait, ça ne va pas complètement changer le rapport de l'homme au monde. Et...
Ah ouais, vous en êtes certain de ça ?
Comme l'imprimerie, quoi. Ça mettra un peu de temps et puis on ne s'en rendra pas compte.
Mais... Et en vous, quand vous réfléchissez à vous, votre propre expérience, vous avez l'impression que ça n'a rien changé en vous ? Je mets de côté la question littéraire qu'on abordera plus particulièrement, mais le reste, je ne sais pas, vos rapports aux gens, au savoir, à la culture...
Ouais, est-ce que c'est une sorte d'infrastructure ou est-ce que c'est du décorum pour dire autrement ce qu'on aurait fait autrement? Ça m'a fait gagner du temps de façon spectaculaire et ça m'en a fait perdre de façon spectaculaire. Donc au final,
où vous perdez du temps? Comment vous le perdez ce temps?
Des recherches vaines ou des actualisations stupides de réseaux sociaux où il se passe pas grand chose. Ouais.
Et pourquoi vous y êtes alors sur les réseaux sociaux?
Bonne question. Ouais. Bonne question. J'ai dû quitter Facebook 15 fois au total.
Et alors, pourquoi vous y revenez ?
Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme si on avait un grand appartement et on en condamnait une pièce, même si c'est la pièce un peu nulle. On aime bien aller y traîner de temps en temps. Ouais.
Twitter, pas ?
Twitter, c'est quand même... L'expérience est vraiment, vraiment beaucoup plus intense. Ouais. La captation d'informations, elle est vraiment accélérée. C'est un peu l'EPO, un Facebook sous EPO. Quoi. C'est vraiment... peut-être plus difficile à utiliser. Et ouais. J'ai pas l'impression de bien maîtriser l'outil alors que j'ai vérifié, je suis depuis 3 ou 4 ans. Mais par contre, non, c'est beaucoup plus intense, ouais, l'expérience. Beaucoup plus
et quel rapport vous avez avec la machine, l'ordinateur en lui-même ?
J'ai changé, pour des raisons professionnelles, ces derniers jours de système d'exploitation et je me suis rendu compte à quel point j'avais un rapport d'une intimité totale avec mon ordinateur et même l'angle que faisait l'écran et la distance habituelle entre moi et mon écran. Et quand je change de système d'exploitation, c'est vraiment l'horreur. Enfin, c'est l'horreur un peu comme quand on va faire un séjour linguistique à l'étranger dans un pays où on n'a pas trop envie à l'adolescence. Quoi. On va y survivre, mais on a l'impression de perdre un temps fou et de gâcher sa vie à faire des protocoles sans intérêt. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un rapport très, très intime avec mon ordinateur.
Et est-ce que vous avez l'impression aussi, que moi j'ai de temps en temps, par exemple, je ne sais pas si je regarde l'écran de l'ordinateur de Thibaut, c'est qu'à voir le bureau, simplement, hein, je pénètre dans son intimité de manière presque trop forte, trop violente.
Effectivement, ouais. Oui, non, l'historique surtout.
Ah ouais, l'historique, non, ne parlons même pas de l'historique de navigation, ça. Voilà, ouais.
Oui, le bureau, ouais, il y a tout des... après, ce qui est intéressant, c'est que l'une des évolutions un petit peu les plus intrigantes du moment, c'est la disparition du bureau avec les terminaux façon iOS. C'est la fin de cette espèce de ce truc de l'âge des cavernes où on fait des petits tas de denrées dans un coin. Au final, on les exploite pas si bien, les petits tas, mais on a... J'ai quand même l'impression qu'on perd vraiment quelque chose, quoi. Le remplacement de la souris et du petit A par l'écran tactile, ça va être, on va mettre un certain temps à retrouver. Et ce n'est pas exclu que ce soit une technologie, une orientation technologique qui nous appauvrisse, en tout cas légèrement. Ouais.
Vous avez quand même une sorte de regard un peu dysphorique, si on part en termes de diachronie, pour utiliser des mots compliqués. Ça, en gros, sur un temps long, vous voyez une évolution qui est plutôt un peu négative.
Non, je comprends de plus en plus. En fait, au contraire, je vois de plus en plus à quel point le progrès est quelque chose de fragile et d'éphémère. Et qu'il n'y a pas du progrès parce qu'il y a du progrès, ce n'est pas très clair. De façon le purement accidentelle, il y a des phases de progrès. Et ces phases de progrès peuvent s'arrêter très brutalement. Et il n'y a pas de garantie absolue que le progrès se perpétue.
Donc vous pensez que, par exemple, l'Internet, en ce moment, est un point où ce qui est un progrès jusque-là peut devenir une régression.
Le tournant des usages est quand même mettre à ce point en avant la qualité des usages au détriment d'autres choses est effectivement un problème. C'est quelque chose qu'on entendait encore il y a 2-3 ans, j'ai l'impression qu'on le dit presque plus, que la programmation devrait être enseignée dans les écoles et qu'on devrait tous maîtriser la programmation parce qu'on se fabriquerait soi-même ses propres outils. J'ai l'impression que quand on nous dit qu'il existe 300 000 applications, même si on sait qu'il n'y en a aucune de bonne et aucune parfaitement adaptée à nos besoins, on se dit « bon, bah, ça ne sert à rien de fabriquer mes propres outils, je vais aller au supermarché de l'outil ». Donc à ce niveau-là, on ne peut pas non plus parler de régression parce que ça rapporte beaucoup d'argent à beaucoup de monde, donc il se passe quand même quelque chose. Mais en tout cas, cette utopie devient progressivement une branche morte. Ouais, je pense qu'on n'y reviendra pas. On sera toujours nostalgique de cette espèce d'âge d'or où on a cru qu'on allait tous basculer sur Linux et qu'on allait tous créer nos propres traitements de texte adaptés. Ouais.
Oui, c'est vrai.
Finalement, on personnalise de moins en moins nos outils. Ouais.
Et quelle influence a eu Internet dans vos pratiques culturelles ? Est-ce que vous êtes un téléchargeur, par exemple ? Légal ou pas légal. Maintenant, c'est bon, vous pouvez le dire.
J'ai reçu une lettre d'Adopi la semaine dernière.
Enfin, quelqu'un avoue avoir reçu une lettre d'Adopi. Parce que, non, mais on a que des gens qu'on croise qui disent avoir reçu des lettres d'Adopi en off, mais qui jamais le disent. Ah, vous avez reçu une lettre d'Adopi. D'accord. Est-ce que ça vous a empêché de télécharger ?
J'ai téléchargé qu'une seule chose depuis.
Donc ça a marché.
C'était pour finir. En plus, c'était pas génial. C'était pour finir Homeland, le dernier épisode.
Bon, vous serez pardonné. Donc.
Non, ça a changé. Enfin, un milliard de choses, ça a changé quelque chose comme le rapport aux images. Avant, je découpais des images et je les collais sur mon mur. Ça, je le fais plus. Maintenant, je sais qu'il y a un réservoir d'images infini. Avant, il y avait quand même un certain truc de rareté. Quand on trouvait quelque chose de rare, on pouvait... C'est un peu la fin du cabinet de curiosité personnelle. Et moi, j'avais vraiment un cabinet de curiosité assez conséquent sur les murs de mon bureau. Et ça plus du tout, parce que...
Mais est-ce que vous les découpez quand même sur l'écran et les stockez quelque part dans votre ordinateur ou même plus parce que vous pouvez avoir à disposition
ces images ? Je l'ai longtemps fait, mais en fait, c'est idiot, ouais. Bah, c'est vraiment le principe de l'eau courante. Hein. On fait quand même assez peu de bouteilles quoi, ou d'échantillons. Donc ça, c'est massif. Le porno, quand même, c'est important. Ouais. Cette espèce de chose. Enfin, surtout pour ma génération, où c'était un produit d'une rareté absolue. Pour avoir regardé du porno encrypté, c'est quand même un truc un peu dingue. Donc là, on bascule vraiment d'une économie de rareté à une économie d'abondance.
Ouais. Et qu'est-ce que ça change, ça, vous pensez ?
Pour ma génération, pas grand-chose, parce qu'on a connu la rareté. Pour une génération qui a connu que l'abondance, étrange, j'arrive pas à savoir.
C'est vrai que vous êtes lassé du porno, en fait, c'est ce que vous nous dites un peu ? Après une période un peu de possibilités
non,
énormes.
Non, lassé non, mais il n'y a plus la magie de mon Dieu, ça existe. Ouais. Ça, on l'a perdu. Ouais. Ensuite, au niveau d'autres usages culturels, oui, je suis devenu une sorte de cinéphile bas de gamme qui regardait massivement des films avec des thématiques précises.
Ah, c'est ça. Est-ce que vous avez eu cette pratique qui consiste à, par exemple, taper « film de braquage » sur Google pour voir tous les films de braquage, même les plus pourris?
Non, je m'étais lancé dans le projet de regarder tous les films Amblin, mais...
Tous les films quoi ?
Amblin. Les films produits par Spielberg et Kathleen Kennedy dans les années 80-90.
Pourquoi ?
J'aimais bien la thématique des films mettant en scène l'adolescence, justement dans ces espèces de chambres d'adolescents pré-internet. Ouais.
C'est la chambre IT, quoi.
Ce moment où il y a tout, mais il manque l'essentiel, où les enfants possèdent des androïdes, les enfants possèdent absolument tout, sauf l'ordinateur qui va d'un coup arriver, tout détruire et prendre la place de tout. Ouais. C'est vraiment l'âge d'or du plastique et des trucs, ces films où les enfants jouent avec des bras articulés par exemple et on pensait à ce moment-là que le bras articulé était vraiment l'avenir de, de tout, en fait. Non.
Mais justement, quel est votre regard, encore une fois, et ça rejoint peut-être la première question que j'ai posée sur la technophilie ou technophobie, sur cette question de la singularité, des utopies post-humaines, transhumaines, dont, enfin, en tout cas, voilà, moi, je ne connaissais quasiment pas l'existence avant de commencer Place de la Toile, et dont je me suis aperçu à quel point elles étaient présentes, soit au premier niveau, soit au deuxième niveau, dans l'imaginaire de beaucoup d'ingénieurs, de beaucoup de geeks, et qu'on ne pouvait pas, disons, s'interroger sur les technologies, même chez Google, hein, de manière très très forte, hein, pour le coup, puisqu'ils ont quand même voilà, engagé Ray Kurzweil, qui est un des techno-évangélistes, enfin le penseur de la singularité. Il est engagé chez Google, enfin voilà, c'est un salarié de Google, bon. Et donc je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas s'intéresser aux technologies sans faire, enfin, en faisant sans ces utopies-là. Qu'est-ce que vous avez comme regard, vous, en plus, qui avez fait de la philo et qui avez commencé une thèse dont le sujet était la métaphysique des mondes possibles?
Ben c'est vraiment le... Enfin oui, effectivement, c'est pas possible de réfléchir aux questions de la technologie sans aller, sans jouer un coup de trop, ce qui est une erreur stratégique. C'est vraiment, on va directement chercher la fin, voir où tout cela nous mène. Et au lieu de réfléchir bêtement en termes d'usage et de besoin, on réfléchit tout de suite à la fin, quoi, comme faisaient les vieux métaphysiciens médiévaux.
Ben oui, mais c'est hyper bizarre. Un philosophe qui dit ça, qui dit faut s'intéresser aux technologies, mais sans penser la fin, sans penser en métaphysicien. Ben si, enfin, au contraire, le philosophe, il doit penser en métaphysicien à des moments, non?
Non, mais disons que la fin, ça ne me semble pas possible que la thématique d'une guerre entre humains et machines soit pas... Enfin, c'est pas du tout de l'ordre de la science-fiction. Ouais.
Ben donc, il faut la penser.
Oui, il faut la penser, mais après, il y a plein de façons de la penser. Il y a la pensée pour la déjouer, la pensée pour l'accélérer. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? En tout cas, en termes de bloc de croyance, l'émergence d'une singularité terminale dans l'histoire humaine devient une chose à peu près irréfutable.
Ah oui, vous pensez ça, vous?
À moins catastrophe. C'est comme si on avait un grand saut à faire, mais si on tient deux siècles, c'est bon, oui.
C'est donc il faut penser la fin comme un métaphysicien médiéval, alors, non?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Oui,
non,
c'est le problème, justement. C'est un peu le problème de ces pensées sur la singularité, c'est que ça va un peu trop loin, c'est un peu débile. Mais
Ah, vous trouvez ça débile?
Bah, on retrouve un vieil âge théologique où on est content de, en gros, après avoir passé un siècle à détruire Dieu, on a les moyens de le refabriquer en kit de façon absolument convaincante. Il s'agit vraiment de religion révélée où ce serait à nous de fabriquer notre Dieu tout puissant. Ouais.
Et c'est quoi le rôle du philosophe là-dedans? Moi, c'est une question que je me pose souvent parce que je suis un peu étonné par le petit nombre de philosophes en France, par exemple, qui s'intéressent aux questions technologiques, ou qui les prennent suffisamment au sérieux, disons, et qui viennent pas de la philosophie des sciences. Enfin, je veux dire, des gens qui les prennent justement du point de vue de la métaphysique ou de. Et vous pensez, c'est quoi le rôle du philosophe là-dedans, justement, même par rapport à la singularité?
La thèse de philo que j'ai jamais fait devait porter sur le qu'est-ce qui individue un objet dans le superordinateur que les médiévaux appelaient l'esprit de Dieu, quoi. Est-ce que les objets sont juste une collection de propriétés un peu hasardeuses, ou est-ce qu'en plus il y a une propriété qu'on appelle les propriétés aesthétiques, ou qui sont une sorte de lien qui rassemble ces propriétés ensemble? Donc finalement, est-ce que très tôt l'idée c'était, est-ce que on va partir du principe de l'avènement d'une singularité d'un ordinateur qui va tous nous englober. Mmh. Est-ce qu'il sera encore possible de vivre dans cet ordinateur? Est-ce qu'on existera en tant qu'objet dans cet ordinateur? Et là, rapidement, effectivement, on se retrouve rapidement sur des questions théologiques. Qu'est-ce qui se passe au paradis? Est-ce qu'au paradis, on est dissous dans l'esprit de Dieu? Ou est-ce qu'on reste, des individualités séparées? La réponse des métaphysiciens médiévaux, notamment Duns Scot, était quand même quand on pense le plus en détail possible, les individus, on ne les déconstruit pas complètement en collection d'individus. Les individus restent perceptibles dans l'esprit de Dieu. Si on transfère ça en termes Google, c'est est-ce que dans les paquets 0 et 2, 1 terminaux, est-ce qu'il existera des sous-ensembles identifiés ou identifiables?
Et donc ce serait plutôt oui si on en croit les fidèles.
Moi j'avais vraiment, c'était vraiment ma frayeur il y a une petite dizaine d'années. Et
c'est quoi la frayeur de la dissolution dans l'information, quoi, dans le 0 et 1?
Ouais, cette espèce de truc qui serait a priori peut-être positif, hein, dans une philosophie de type bouddhiste, dans une philosophie un peu de type dérivée des religions révélées, c'est plus problématique. Ouais.
Mais ça vous angoissait vraiment, ou ça vous angoissait théoriquement?
ça m'angoissait théoriquement. Comme je suis pas quelqu'un d'angoissé, une angoisse théorique suffit à occuper, enfin,
à vous angoisser réellement.
À occuper toutes les angoisses disponibles.
C'est assez beau ça d'être angoissé vraiment par des angoisses théoriques.
Et donc voilà, finalement, ça rejoignait cette question. Est-ce que la fin des temps sera la fin dernière de tout, ou est-ce que on pourra préserver des sortes d'enclaves? Et c'est amusant parce que finalement, c'est des singularités dans la singularité, quoi. Dans le puits terminal de la singularité, il restera des objets un peu concrets.
Aurélien Bélanger, on va poursuivre notre discussion dans quelques instants, mais tout de suite, on va écouter Thibaut Henton qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question « Existe-t-il une usine à Aux ?»
D'où viennent les Aux ? Y a-t-il une usine à Aux quelque part ? Ben oui, l'Internet, c'est bien connu. Repère de rumeurs, de fausses informations, de manipulations, de criminels et de pédonazis. Tu le sais pas encore ? La toile est-elle une usine à Aux ? Attention à ne pas tout confondre. Il s'agit d'abord de bien comprendre ce qu'il faut entendre par Aux. Et pour ça, il me faut pas moins de 4 pages Wikipédia. Aux, c'est le terme anglais, première page wiki, pour canular, deuxième page. Mais le terme existe aussi en français comme anglicisme. Aux en français, et de 3, restreindrait le sens de canular au canular informatique, et de 4. Le canular informatique, c'est celui qui passe par nos ordinateurs connectés, par des chaînes de mails dont l'objet peut être, par exemple, le vrai salaire de François Hollande, ou cette famille rome vit avec 1000 euros d'aide publique par mois, ou encore Microsoft s'apprête à fermer Hotmail, sauvegardez vos contacts, etc., en cliquant là. Bon, là, je ne cite que des exemples de hoax malveillants, mais le canular informatique peut tout à fait servir d'autres intentions, hein, plus drôles, plus subtilement politiques, où l'on entend moins beugler le désespoir présent. Manipulation, falsification, intox, canular, ça n'a pas vraiment de sens de limiter l'interrogation à l'informatique pour comprendre le phénomène. Ce que la toile facilite sans doute, c'est la circulation de l'information, sa propagation, comme on dirait qu'une rumeur se propage. Mais attention, là encore, là où la rumeur peut être vraie ou fausse, le hoax, lui, est toujours faux. Donc, je disais, pas de sens à limiter l'interrogation à la toile, qui donne aussi les moyens de lutter contre, avec des sites qui permettent de recenser et retourner les hoax, dont les plus connus en français sont Hoax Killer et Hoax Buster. L'un des fondateurs de ce dernier soulignait d'ailleurs il y a quelques mois que plus de la moitié des demandes concernent des hoax anti-musulmans. Bon. Je comprends maintenant que s'il y avait une usine à hoax, de tels sites n'auraient pas besoin d'exister, puisque le propre du canular, c'est d'entretenir le doute et l'ambiguïté, et d'abord sur la source qui l'origine. Je risque au passage une hypothèse paranoïaque. Ceux qui ont le plus intérêt à alimenter la toile en canular, ce sont les sites de presse eux-mêmes, pour faire ensuite valoir leur fiabilité, justifier la confiance qu'on est censé leur accorder. Impossible à identifier donc la source du hoax, car identifier revient à démystifier, et un canular démystifié ne fonctionne plus. Quelques hoax récents, sans remonter au canular radiophonique d'Orson Welles en 1938, qui aurait, mais c'était là aussi une manipulation, a-t-on appris plus tard, entraîné une immense vague de panique. Eh bien, il y a le faux interprète en langue des signes de la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela, la semaine dernière. Ou mieux, car on n'en trouve plus trace désormais, mais j'ai fait quelques captures d'écran, l'annonce de la mort de Gorbatchev par le faux compte Twitter du tout nouveau ministre des Affaires étrangères allemand. Je pourrais aussi parler du site Le Gorafi, à ne pas confondre avec Le Figaro. Depuis 1826, toute l'information de sources contradictoires. Le Gorafi annonce par exemple que désormais, les passagers de Ryanair devront conduire eux-mêmes les avions. Ou encore, qu'une Canadienne est devenue la première femme à tomber enceinte via Skype. Ces canulars sont parfois pris au sérieux, sinon ils n'en seraient pas vraiment. Mais on peut aussi tout à fait procéder à l'inverse, en recensant des informations qui ont tout l'air de hoax, mais qui n'en sont pas du tout. Sur Syndice, il y a un mot-clé pour ça. Lorsque La Provence annonce le suicide d'un Chinois après avoir passé des heures à faire les boutiques avec sa femme, c'est pas une blague, mais on a sorti la recension du mot-clé « dièse Gorafi encore plagié ». Si même les informations véritables ont l'air de canular, je renonce définitivement à savoir d'où ils viennent. La toile n'est pas une usine à hoax, elle est une saine école du doute.
Ah, the holiday season. A time for celebration, magic,
and spending time with the people you love. But don't forget who's watching to make sure you're not being naughty.
You better watch out, you better not Skype, you better log out, yeah, you better not type. The NSA is coming to town. You're making a list, they're checking it twice, they're watching almost every electronic device. The NSA is coming to town.
The NSA is coming to town. La NSA arrive en ville, chanson de Noël parodique qui m'a été transmise hier par Emmanuel Laurentin. On y voit des Pères Noël jouer les espions dans une ville américaine. C'est assez drôle.
With Congress in the dark and a cloak and dagger court, we're looking for answers and they're coming up short. The NSA is coming to town. They're making a list, checking it twice, they're watching almost every electronic device. The NSA is coming to town. The NSA is coming to town. The NSA is coming to town.
You wouldn't let government agents spy on your special holiday moments in person. Why are we letting them do it in the digital world? Help us end the NSA's unlawful spying programs. Click here and take action now.
Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques d'avant Noël, donc, où nous discutons aujourd'hui avec Aurélien Bélanger, écrivain, auteur de La théorie de l'information, qui était paru en septembre 2012. Alors parlons un peu littérature maintenant, Aurélien Bélanger, parce que, est-ce que, c'est quoi votre idéal de phrase ? Non, je pense à ça parce que, excusez-moi, je vous dis, je pense à ça, parce que quand j'étais arrivé en Hippocagne, je me souviens que le professeur de la classe de littérature d'à côté avait donné à la classe, à sa classe, comme sujet, qu'est-ce qu'un beau vers et que ça m'avait complètement obnubilé, et ça continue de m'obnubiler parce que c'était quasiment il y a 25 ans. Et donc je me disais, voilà, quelqu'un qui a écrit comme vous un livre qui... Donc, conjoint à la montée du code informatique comme étant une forme d'idéal d'expression d'algorithme, comme idéal de raisonnement, je me disais que forcément ça a des influences sur la manière dont on conçoit l'écriture.
Et. Pardon. Non, un idéal de phrase, ça serait une phrase incroyablement compliquée, mais sans aucun mot en trop, et pas pour des raisons tant d'oreille que pour des raisons d'efficacité et de description totale du champ comme une phrase qui se comporterait comme une explosion mentale et qui laisserait à peu près rien, enfin aucune partie de la boîte crânienne inexplorée. Ouais. Après, c'est une réflexion que je m'étais fait en utilisant un logiciel pour courir... qui tombait en panne parce qu'il y avait un bug. Je courais et puis au bout de 8 km, le truc tombait en panne, c'était insupportable, ça faussait mes données. Et je me suis mis à haïr la personne qui avait fait une faute de code, enfin, qui était responsable du bug. Et je me suis dit que, heureusement qu'on n'est pas aussi exigeant avec les romanciers qu'avec les codeurs. Ouais. Mais par contre, ça donne une bonne image d'un idéal possible pour la littérature, c'est d'atteindre cette espèce de perfection formelle ou en tout cas opérationnelle du code.
Mais le problème, c'est que le code, ça a pour but de faire exécuter une tâche. Quelle tâche pourrait faire exécuter une phrase de littérature ?
Ce qui est amusant, c'est que la performativité de la littérature, elle existe, parce que de toute façon, on transforme des informations visuelles en informations cérébrales. Donc déjà, c'est ça. À la limite, une mauvaise phrase ne génère pas d'informations, une bonne phrase en génère beaucoup, une très bonne phrase... en génère énormément. Une bonne métaphore très très courte, hein, qui peut être juste l'association d'un bon adjectif avec un bon nom commun, peut créer parfois un paysage complet. Il y a des exemples connus de descriptions vraiment pénibles dans Chateaubriand, où il décrit Jérusalem dans Le Voyage en Orient, je crois. C'est très très pénible, la lumière se détache sur chaque mur, ça n'a à peu près aucune efficacité mentale. On peut reconnaître de loin que c'est à peu près équilibré, que les métaphores se répondent, mais on ne voit pas Jérusalem. Alors que une phrase peut agir comme une odeur qui fait d'un coup se souvenir d'un édifice immense. Ouais.
Mais vous pensez que ces rapports que vous établissez entre l'écriture, disons, littéraire et le code informatique, vous pensez que c'est... c'est des choses que vous pensez a posteriori. Vous pensez qu'une génération comme la vôtre, comme la nôtre, disons presque, on est quasiment la même génération, comme ça, qui est si imbibée de questions technologiques, ne peut pas faire ce type de rapprochement et ne peut pas avoir pour autre horizon de perfection que l'algorithme.
Non, mais il y a aussi quelque chose de polémique. Ce qu'on a vu depuis à peu près une cinquantaine d'années, c'est la mort de la poésie qui n'intéresse à peu près plus personne. Enfin, vraiment, si on prend de façon très basse, qui lit des recueils de poésie, qui achète des recueils de poésie, 1% de la population maximum. Et la poésie est quasiment morte en tant qu'objet. Par contre, le poétique existe, est sorti de la poésie. Et puis on dit, ce film est poétique, cette publicité est poétique, cette lumière est poétique. De façon peut-être plus récente, le romanesque en train de sortir du roman. Ouais. Si on entend un récit sur... un truc récent, j'écoutais, pour ne pas la citer, une émission de radio sur le Bitcoin. Là, il y avait du romanesque à l'état pur. Il y avait un secret, un possible complot, pas de complot, des trucs très compliqués, moins compliqués, etc. Là, c'était du romanesque. Ça servait presque à rien de faire le roman du Bitcoin, puisque le romanesque était là à l'état pur et sauvage. Le roman, il a quand même perdu son statut d'être le fournisseur mainstream de produits d'excitation cérébrale. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de regarder des séries pour avoir un peu une certaine dose d'excitation, de suspense, etc. Le roman se maintient encore bien parce qu'il y a le roman policier ou des choses un peu assimilées, genre Harry Potter, mais une littérature de suspense. Mais le roman en tant que tel est quand même un peu moribond, quoi. Et moi, il y avait quand même, avec la théorie de l'information, l'idée d'être un petit peu polémique contre cette littérature qui n'en est plus, enfin qui n'est plus un art et qui est une sorte de sous-branche de l'ikebana ou de la décoration intérieure, quoi. Ce qui est un truc, un loisir qui a vraiment perdu sa position centrale et qu'il était au possible, peut-être pas de le recentrer, mais de dire bon, ok, on va quand même se reconcentrer sur les questions d'efficacité. C'est un peu en ça que je demeure malgré tout un geek, c'est que finalement, peu m'importe. La nature finale de l'objet m'importe peu, même si là, c'est vrai que j'ai bénéficié de l'emballage vraiment chic, littéraire, quasiment maximal en France, via mon éditeur. Mais.
Oui, c'est la collection Blanche de Gallimard qui est vraiment le truc estampillé littérature française. Voilà.
Mais on peut. On peut. J'ai oublié du coup ce que je voulais dire.
Non, c'est pas grave parce que j'ai une autre question à vous poser. Justement, pourquoi vous avez fait un roman qui est dans un livre? C'est la question que je me suis posée en vous lisant. Je me suis dit, mais en fait, pour être en conformité avec l'histoire que vous racontez et avec ce que vous décrivez, c'est presque pas un livre qu'il faudrait. Il faudrait exploser ça, il faudrait exploser le roman. Est-ce que vous pensez qu'il sera encore possible d'écrire des romans? Moi, c'est dans des livres comme ça, c'est-à-dire dans la collection Blanche de Gallimard.
Je répondrai en faisant un détour par Andy Warhol, qui finalement n'était pas une personnalité si importante, était un peu négligé, etc., mais qui a vraiment, enfin, n'était pas central dans la culture. Il était important pour certains cercles culturels ou artistiques new-yorkais. Il n'était pas central. Il a voulu se recentrer en faisant des produits marketing, de diffusion massive, etc. Et il est. C'est quand même l'un des premiers témoins du moment où est-ce que j'abandonne l'art, est-ce que je me mets à faire du design ou est-ce que je maintiens l'art? Et finalement, c'est important de maintenir l'art dans la mesure où c'est pas avec ça qu'on va avoir l'efficacité maximale. On vendrait beaucoup plus si on faisait du jeu vidéo ou je ne sais quoi. Mais on se protège quand même dans le temps et dans la durée en faisant de l'art. Ouais. Si Warhol n'avait fait que des soupes Campbell, il fallait quand même qu'il existe, qu'il manifeste qu'il existait comme une sorte de singularité pure, comme artiste, etc. Faire un roman, c'est refuser, accepter en fait largement l'horizontalité du monde, mais quand même dire cette position d'autorité-là, où je suis un peu chef grutier sur le chantier de la modernité, je ne veux pas complètement l'abolir parce qu'elle va servir mes intérêts stratégiques à long terme. Même si c'est vrai, fondamentalement, elle est... pas ridicule, mais elle a un truc obsolète, effectivement, évident.
Mais il y a une position de l'auteur qui est obsolète. Il y a aussi le livre qui, par certains aspects, l'est. Non, vous pensez que c'est pas obsolète, le livre comme objet? Le roman comme
Le livre comme objet, comme immersion. Si, sans doute. Le truc qui n'est pas obsolète, c'est... quelque chose de fondamentalement pas libriste, en fait. C'est de dire que ce roman n'est pas améliorable, ou alors D'accord. il l'est par moi, mais présenter un truc extrêmement fermé. C'est un...
Encore une fois, ça rejoint ce que vous dites sur la question esthétique du début, c'est-à-dire,
oui, oui, finalement,
c'est-à-dire qu'il faut fermer, il faut clore quelque chose. Quoi. Voilà.
En tout cas, dans ce domaine, c'est important. L'exemple, me semble-t-il, à peu près évident de ça, c'est qu'à partir du moment où on a enlevé le cadre du tableau et qu'on a dit que le tableau, c'était n'importe quoi, etc., on a fabriqué un champ économique extrêmement puissant qu'est l'art contemporain, mais on n'a pas énormément renforcé la puissance des artistes.
Ouais, enfin, je serais pas.
Ou alors les artistes sont un peu moins. Les artistes sont en tout cas devenus beaucoup plus dépendants du système. Alors qu'un romancier, tout pendant qu'il a le roman à exhiber, il est un tout petit peu indépendant du système. Il a une preuve. Je peux très facilement prouver que je suis un romancier parce que je peux tenir un objet qui dit regardez, je suis romancier. Si on abolit le roman comme système, j'aurais besoin de beaucoup plus d'instances de légitimation pour prouver que je suis romancier. Donc c'est peut-être un gain de temps finalement.
Et comment vous écrivez? Quel rapport vous avez par exemple à l'internet quand vous écrivez? Vous coupez tout, vous déconnectez, vous êtes en permanence sur Wikipédia?
Non, je suis en permanence, je suis en permanence connecté et je sais pas, peut-être une idée sur deux vient au fil de la plume en faisant des recherches sur un sujet précis.
Ah oui.
Je peux tenir très longtemps. Il y a un côté un peu track obsessionnel. Hein. Je peux tenir 8 heures d'affilée sur la recherche d'un détail pendant que je le trouve. Parfois, ça m'apporte le détail, parfois pas. Mais ça m'apporte toujours des recherches, un truc intéressant. Ouais.
C'est-à-dire que et ça fonctionne comment? C'est-à-dire que vous avez un document, type Word qui est ouvert, et puis parallèlement vous avez des onglets et vous naviguez sur les onglets. Comment ça se matérialise?
Oui, c'est ça. Ouais, je fais une recherche un peu brute d'un truc. C'est vraiment un détail. Hein. J'aime pas faire une erreur de date, j'aime pas faire une erreur de lieu. Donc j'essaie d'être très carré là-dessus. Et si je cite tel modèle de voiture, je veux que le modèle de voiture soit sorti l'année où je le cite.
Et est-ce que vous allez voir des images sur Google Street Map, par exemple? Est-ce que du coup, ce que produit Internet est aussi un imaginaire comme, je sais pas, comme pouvait l'être un voyage pour Chateaubriand?
Bah moi, je suis amateur depuis tout petit de cartes et de plans. Donc je peux passer vraiment des heures à lire des atlas. Donc l'arrivée de Google Earth, ça a été un peu une sorte de c'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. D'un coup, c'était disponible. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Mais bon, il m'arrive une expérience très commune. C'est que la réalité est quand même, malgré tout, un peu plus riche que Google Earth. Ouais. Et on connaît rarement un lieu bien quand on n'y est pas allé réellement. Ouais.
C'est-à-dire, la réalité est plus riche que Google Earth?
Oui.
Ah oui, d'accord.
C'est décevant hein, de le dire comme ça. On a l'impression qu'ils n'ont pas encore bien fait le boulot. Mais un peu de terrain des fois, mais bon, en général, on va vérifier sur le terrain que ces intuitions, on va valider ces intuitions, on ne va pas en avoir de nouvelles.
Et vous êtes lecteur de quoi? Vous êtes lecteur d'anticipation? Vous êtes lecteur de ce type de littérature techno, disons, cyberpunk, etc.?
Je ne suis pas lecteur de science-fiction. Effectivement, la seule science-fiction que j'ai lue, c'est le mouvement cyberpunk. L'une des sources un peu occultes de la théorie de l'information, c'est le Cryptonomicon de Neil Stephenson, c'est assez foutraque comme bouquin, c'est assez réjouissant en même temps, c'est une trilogie, mais ça a été l'un des premiers livres à prendre vraiment, pas les théories de Shannon, mais à prendre en tout cas la question des théories de l'information au sens large comme argument romanesque. Ça m'avait beaucoup inspiré. J'aime bien cette idée qu'on est dans un monde détruit, mais qu'on a la capacité chacun de fabriquer quelque chose. Qui m'intéresse aussi dans la littérature cyberpunk, c'est quelque chose qu'il y a chez Gibson, c'est la présence toujours des aéroglisseurs. Et symboliquement, je trouve ça très fort, l'aéroglisseur. C'est un objet qui génère sous lui sa propre route et qui peut traverser un monde détruit. De la même façon que les grands mythes cyberpunk, l'idée que même si tout s'arrête, là je contredirais ce que je disais tout à l'heure, mais même si toutes les usines s'arrêtent, on a encore... nous, la possibilité de fabriquer nos propres smartphones, nos propres réseaux, nos propres voitures. Donc ça m'a toujours fasciné. Et récemment, c'est l'auteur de SF australien, Greg Egan, qui je trouve le plus intéressant et le plus riche. J'ai à peu près lu tout ce qu'il a fait. À chaque fois, c'est à peu près génial, en fait. Quel que soit le sujet, son approche est géniale.
On va tout de suite écouter Thibaut Henton pour son complément d'enquête.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Oh, c'est pas que ce soit très important.
Thibaut, il y en avait qu'une. Il y a un an et demi, donc vous étiez un peu la star de la rentrée littéraire 2012. Quel bilan vous faites de ça un an plus tard?
C'était pas vraiment prévu et j'ai gagné beaucoup de temps parce que normalement, on peut faire 3-4 romans qui bénéficient d'un traitement médiatique moyen et puis soudain exister. Donc j'ai eu l'impression vraiment de gagner beaucoup, beaucoup de temps d'être exposé comme ça.
Et du coup, quels sont vos objectifs stratégiques à long terme?
Pour reprendre l'expression que vous avez utilisée.
Il faut que j'arrive à maintenir un certain coefficient d'humanisme, parce qu'il ne suffit pas d'être bon écrivain pour avoir le prix Nobel, il faut aussi que, avoir œuvré pour le développement, je crois, des valeurs de fraternité humaine. Donc ça, c'est important.
Vous êtes en quête, vous le faites comment?
On ne fait pas n'importe quoi.
Vous êtes en quête d'un supplément de dignité, comment ça, ça...
Ouais, voilà, il y a tout cet aspect. Non, ce dont je suis en quête, j'aimerais beaucoup en fait faire beaucoup de romans le plus possible dans le moins de temps possible.
Et vous avez aucun lien avec le Bélanger de Skyrock, hein?
Non, je l'ai rencontré parce qu'il est cité dans le bouquin.
Ouais, qui est un personnage aussi important de l'histoire des technologies en France.
Et mais j'ai lu notamment, enfin, il fait beaucoup de livres qui met disponible gratuitement. La convergence et le code, c'était pas mal. Et puis ses réflexions sur l'après-argent sont pas inintéressantes. Ouais.
Vous êtes passé de quel système d'exploitation auquel, pardon? Vous l'avez pas précisé.
macOS à Windows.
Ah ouais? Mais c'est pour par curiosité, pour
c'est à titre professionnel, c'est que j'ai pas eu le choix de mon ordinateur pour depuis 4 jours.
On vous a fourni un ordinateur dans quel cadre?
Un cadre professionnel.
Très bien. Qui n'est pas un cadre de romancier, là, rien à voir avec ça.
Non, parce que les romanciers travaillent peut-être plus sur Mac, non?
Je sais pas.
Ah, vous pensez? Pourquoi ils travaillent plus sur Mac?
Non, ça dépend, mais il y a la profondeur des touches. Mais maintenant,
c'est vrai que les claviers Windows
Mac sont adaptés, mais sur Mac, on appuie sur la touche. Enfin, la frôle, alors que sur Windows, enfin, les vieux claviers, il y a encore 3-4 ans, la touche, elle a un débattement d'un centimètre.
Et vous pensez donc que les écrivains ont besoin juste d'effleurer les touches, alors que les autres...
Bah, c'est beaucoup trop long.
Alors que le prolétariat, lui, il peut appuyer comme ça, comme un malade.
Ah, bonne question, ouais. Oui, le prolétariat a des mains beaucoup plus vigoureuses.
C'est ça, d'accord. Non, c'est bien. Bravo. Je ne suis pas sûr que vous ayez le Nobel pour améliorer les relations entre les hommes.
Et quelle pratique de l'archive? Vous avez dit que vous écriviez un peu en vous servant d'Internet comme d'une eau courante, que vous ne faisiez pas trop de bouteilles, que c'était la fin du cabinet de curiosité personnelle. Mais vous avez quand même une pratique de l'archive ou du coup pas du tout?
Plus le temps passe, plus l'archive, c'est le renforcement de mes circuits neuronaux. Quoi. C'est les trucs que je vais rechercher le plus souvent quand je suis un peu insomniaque et que je fais des recherches un peu frénétiques sur un sujet. Et puis au final, c'est assez plaisant de voir que mes obsessions sont à peu près toujours les mêmes.
Et qu'elles sont toujours présentes, mais comment vous pouvez en être sûr qu'elles seront toujours présentes
si vous en tout cas, ce qui m'importe, c'est qu'elles soient assez présentes pour qu'elles me donnent envie d'écrire un roman autour de ces obsessions. Mmh. Donc
peu importe que ce soit une copie conforme.
Si je les perds, c'est pas très très grave. Ouais. Mais j'utilise Dropbox comme...
C'est mal.
C'est que votre intelligence, c'est plus la mémoire, c'est l'accès à l'information, c'est ça?
Après, j'ai du mal à le dire parce qu'il y a un côté pas proustien dans la théorie de l'information, mais je me suis toujours revendiqué comme un écrivain proustien. Ce qui m'intéresse, c'est de recombiner des choses nouvelles sur les expériences de mes 6 premières années de vie. Mmh.
Et vous parliez de la performativité
de la littérature.
De la littérature. Vous êtes vraiment convaincu qu'une phrase lue sur écran et une phrase lue sur papier produit la même information cérébrale?
Ça dépend comment elle est mise en scène, en fait. Mais oui, non, c'est pas aussi évident que ça. Ouais.
J'ai une toute petite question. Est-ce que vous pensez que le jeu vidéo, c'est l'horizon désirable de la narrativité de demain?
Non, parce qu'il faut, la position d'autorité, il faut vraiment être guidé par la main d'un point A à un point B. La liberté fait pas une bonne expérience esthétique.
Donc c'est intéressant, parce que vous téléchargez illégalement, mais en revanche, vous êtes pour l'auteur comme position.
Les gens, par exemple, quand ils vont voir la chapelle Sixtine, ils préfèrent les voûtes très narratives du haut au gros bordel des voûtes de l'Apocalypse, enfin d'en face, qui serait plutôt de l'ordre du jeu vidéo, parce qu'il faut partir dans tous les sens. C'est trop fatigant, en fait. On préfère la narrativité stricte.
C'est intéressant. Merci beaucoup. Merci Aurélien Bélanger d'être venu à Place de la Toile. Je rappelle évidemment que la théorie de l'information sort en poche bientôt. Hein, c'est ça.
Au mois de février. Ouais.
Et ben, je conseille la lecture à ceux qui ne l'ont pas déjà faite. La semaine prochaine, en Place de la Toile, on consacrera enfin une émission complète au logiciel libre. Donc vous pourrez apprendre ce que c'est en faisant avec Sébastien Broca, qui a écrit un livre sur la question, une histoire politique du logiciel libre. Ce sera donc samedi prochain, 18h10, dans Place de la Toile. Entre temps, Noël aura eu lieu. Je vous souhaite donc, chères auditrices et auditeurs, de bonnes fêtes de Noël et d'excellentes vacances si vous avez la chance de vous arrêter quelques jours. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte. À la technique, c'était Jean-Frédéric. Réalisation, Marie Placé. Dans quelques instants, Elisabeth Tchungi sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.